bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi, Daniel Morin,
bonjour Nagui,
Albert Algou,
bonjour,
Alexis Le Rossignol, Frédéric Siris,
bonjour,
et notre invité Patrice Lecomte.
Bravo. Bonjour
Patrice. Merci Patrice de venir à ce micro.
Je connais le chemin parce que je suis déjà venu 15 fois. Je confonds 16. Avec le nombre de diffusions du film.
Mais nous sommes ravis toujours de vous accueillir. Et puis là, c'est pour notre Madeleine, parce que c'est vraiment une Madeleine générationnelle, bien que j'ai.
Notre Mr. Freeze.
Je ne sais pas combien de générations sont concernées par les bronzés. Est-ce que vous vous rendez compte d'ailleurs, c'est transgénérationnel totalement, non?
Oui, c'est transgenre carrément. Transgénérationnel.
Non.
Peut-être aussi.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a quand même des tas de gamins, c'est affectueux, c'est pas péjoratif, qui connaissent ce film par cœur et qui n'étaient
pas nés.
Mais même pas au stade de l'échographie, leurs parents ne se connaissaient pas.
Ils ont été faits sur le film.
C'est vrai qu'il y a des scènes à revoir le film, ce qu'on a fait pour le plaisir des yeux et puis pour préparer cette émission. Il y a des scènes, on se demande si aujourd'hui elles repasseraient ou elles seraient acceptées. Non, mais il y a des.
Dans le chalet, par exemple, quand les Italiens s'absentent un par un. On peut se poser la question avec en bruit de fond, les ébats.
Les Italiens.
Voilà.
Les Italiens qui défilent.
L'autre. Voilà. On pourrait se poser la question.
C'est pas choquant.
Il y a des choses
que peut-être on n'oserait plus faire. On s'auto-censurerait. Ce serait dommage parce que c'est des choses assez poilantes.
Il y a un coffret pour fêter les 40 ans des bronzés fonds du ski. C'est pile en novembre, fin novembre, je crois, le 40e anniversaire.
C'est là, c'est maintenant. Oui, c'est
dans les jours qui viennent.
C'est ça.
Et puis, Thierry Lhermitte, quoi.
Le slip kangourou, Thierry Lhermitte.
Non, mais Thierry Lhermitte.
Le slip kangourou, c'est
ça. Je ne me souvenais plus à ce point-là. À quel point il était beau.
T'as craqué.
Pardon.
Il est encore vieux.
Dans sa combinaison des coules françaises de ski, je comprends tous les fantasmes du monde, quoi. Il est, mais d'une beauté sidérante.
Le fou rire de Joseph Balasco quand il est en slip kangourou, ça aide aussi quand même. On apprend, puisqu'il y a un documentaire qui est dans ce coffret, il y a le DVD, le Blu-ray et un documentaire, et on apprend dans le documentaire justement que lorsqu'il était dans la scène du slip kangourou,
dans le premier bronzé.
Il a sorti une coucougnette pour faire rire Joseph Balasco.
Oui, parce qu'il
vous l'avez pas mis au montage.
Non, c'était juste pour le contingent parce qu'il a pas fait ça quand la caméra était sur lui, mais quand c'était sur Josiane et pour faire rire encore plus Josiane, il a sorti une couille.
Il a un commentaire sur les couilles de Thierry Lhermitte.
Non, ça va.
Ce qui marche toujours, ça fonctionne.
Oui, je suis
toujours.
J'ai perdu le contre-champ.
Allez, d'abord des questions concernant
Thierry Lhermitte.
Patrice Lecomte, il a réalisé son premier film à 14 ans pour un ami de son papa qui était médecin. Mais quel était le sujet de ce film?
La coloscopie.
Non, mais c'est de l'autre côté.
Les amygdales.
Non.
Attends, repose.
C'est plus bas.
De l'autre côté.
Repose la question.
C'est l'envers du décor. Forcément, c'est
l'origine du monde.
Oui, on n'est pas loin de l'origine du monde.
Les organes génitaux.
Oui, mais
la naissance.
Exactement, Daniel Morin. L'accouchement sans douleur, pour être précis.
Les phénomènes mécaniques de l'accouchement sans douleur. Pourquoi est-ce que je me souviens
à 14 ans, surtout. À 14 ans.
J'ai appris des trucs. Non, mais c'était un film d'animation.
Ah d'accord, ok. C'était pas un reportage.
Non.
D'accord, ok.
C'était pas une caméra cachée, quoi.
T'as des drôles de coucou.
À l'époque, elles étaient pas faciles à cacher dessus, les caméras.
C'est vrai.
Donc c'était du dessin, c'était du dessin.
J'avais fait tout les dessins avec l'utérus.
Un storyboard,
qui se développe,
en fait.
Avec le 1. Hein
avec un storyboard de l'utérus.
Non, un dessin, c'est un film d'animation.
D'accord.
On voyait comment ça se passait.
C'est le film d'animation. Vous dessinez 24 images secondes.
Oui, c'est avec des cellulos, des trucs, ça m'a demandé, je faisais plus rien au lycée évidemment.
Non, c'est un travail de fou.
De fou.
14 ans, comment aviez-vous appris d'abord la technique du film d'animation? Qui vous l'avait apprise et comment on n'abandonne pas face à la tâche?
Je me suis pas rendu compte de la tâche, c'est pour ça que j'ai pas abandonné. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en tongs au pied de l'Everest, vous dites non, je vais pas monter parce que c'est trop haut et puis je suis pas équipé. Mais là, pour faire ce film, je savais pas que ça allait m'occuper si longtemps. Bien sûr que non. Donc j'ai pas calé, j'y suis allé, puis ça m'a amusé à faire. Mais pour apprendre les techniques d'animation, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas archi mystérieux non plus. Et puis on a tous fait par exemple des, vous savez, quand on fait une séquence avec deux dessins. mm-hmm. et puis on
la feuille
du dessus, hein, et la feuille du dessus, on la roule, et puis on fait comme ça avec un crayon. Généralement, c'est des trucs sexuels, bien sûr. C'est plus marrant de voir un type s'agiter dans un lit. Bref, c'est pas très compliqué à appréhender.
Je voudrais juste revenir sur l'obstination que l'on peut avoir à 14 ans. Qu'est-ce qui peut faire? Je pense qu'on serait nombreux autour de cette table à se dire, 14 ans, ou face à la masse de travail, même si on a commencé, on va laisser tomber. Oui, parce que je m'étais pas rendu compte.
Oui, mais j'avais peut-être 14 ans et demi.
Voilà. Question suivante, alors.
Êtes-vous pour reprendre l'expression chère à Didier Deschamps, quelqu'un qui ne lâche rien?
C'est-à-dire, quand vous commencez, c'est ça? Non, ça me, je lâche, si, mais il m'arrive de lâcher des choses qui m'insupportent. Il m'arrive de partir avant la fin d'un film, il m'arrive
un exemple de récent?
Non.
je suis assez déterminé, je suis opiniâtre, laborieux parfois.
Pourquoi Patrice Lecomte et Jean Rochefort s'appelaient-ils régulièrement?
Pour se faire des blagues, des canulars.
Exactement. Ouais. Pour se raconter des blagues.
Oui, pour se raconter des blagues. C'est-à-dire que...
Il y avait quand même un bonjour, comment ça va? Ou c'était direct?
On s'appelait, après on se racontait des trucs. On se disait comment tu vas, ceci, cela, etc. Mais dès que l'un de nous deux, c'était tacite, on n'avait pas signé un contrat non plus, mais dès que l'un de nous deux avait une nouvelle vanne, une nouvelle blague formidable,
il fallait s'appeler. L'autre. Ouais, c'est génial.
Et alors, le téléphone sonnait, je voyais que ça s'affichait Jean Rochefort. Allô, Patrice, c'est Jean. J'en ai une nouvelle. et par exemple, moi, mes histoires, j'ai failli le tuer plusieurs fois. Je suis pas responsable de son décès, mais c'est parce que je lui racontais des trucs. Il était très rieur et quand il riait, il était presque en apnée. Lui, quand il me racontait des blagues, c'était des blagues un peu surréalistes. Exemple, c'est court. C'est pas une blague, c'est une devinette. Qu'est-ce qui est jaune et qui pèse 800 kilos? Oh, je dis, bah, écoute, Jean, je sais pas. Et la réponse est un poussin, mais alors la belle bête. Mais avec la voix de Jean, ouais, c'est ça.
Et la grosse, donc
celle qui a failli tuer Jean Rochefort, c'est l'histoire du compositeur maudit.
C'est un
compositeur qui vit dans sa chambrette, 7e étage, sans ascenseur, 5 mètres carrés, il a noirci des partitions, des trucs, il a écrit des oratorios, des sonates, des symphonies. Mais il n'a jamais été joué. Personne ne le connaît. Et puis un jour... Mais il continue quand même, opiniâtre. Et puis un jour, le téléphone, qu'on lui aura pas encore coupé, sonne, et c'est une maison de production qui met en chantier un nouveau film. Et qui, comment cette maison de production connaît l'existence de la musique de notre ami, on ne se pose pas la question, en tout cas, dit, voilà, nous connaissons votre concerto numéro 5, et nous aimerions en acheter les droits, car le deuxième mouvement nous intéresse beaucoup pour un film qu'on met en chantier. Alors lui, il fait « Oui, je vais voir ». Enfin, il fait le blasé.
Je vais désirer, oui.
Il raccroche, ils sont au plafond de joie. Yes ! Et puis, il n'a plus aucune nouvelle. Et puis, quelques mois plus tard, il apprend que le film va sortir mercredi. Il achète Pariscope, ou plutôt l'officiel des spectacles, parce que c'est moins cher. C'était moins cher. Et il voit que le film se joue dans une seule salle du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Bon, bah, ceux qui vont ouvrir le circuit après, donc il y va. À la première séance, il paye sa place. La salle est vide, il y a juste un couple de retraités qui est là au milieu de la salle. C'est parce qu'on est en avance, les gens vont venir. Ils s'installent derrière ces gens-là pour se sentir moins seuls. La salle s'obscurcit et ils sont que tous les trois dans la salle. Le film commence et c'est un film pornographique, mais comme vous pouvez pas imaginer. C'est dans un château, les gens s'enfilent dans toutes les pièces, par tous les trous. C'est un truc, honte submerge notre ami.
Okay.
Et arrive la scène clou du film, au cours de laquelle l'acteur principal, donc sans doute le mieux membré, sodomise un Saint-Bernard.
Oui, je crois que j'ai vu.
Et à ce moment-là, retentit le deuxième mouvement du concerto de notre ami. Ouh. Un tsunami de honte le submerge, et puis malgré tout, un petit sentiment de fierté.
Ah ouais.
Ça
s'appelle une bande originale.
Et il tape sur l'épaule des gens qui sont devant lui, il dit « c'est ma musique ». Et il se retourne en disant « c'est notre chien ». Eh bien, cette histoire a donc failli tuer Jean Rochefort.
J'adore. Surtout qu'on la voit pas du tout venir. J'adore.
Je voulais en faire un film.
Patrice est grand amateur de vodka. Mmh. Mais qui l'a initié?
Depardieu.
Qui lui a fait découvrir, bah, je vois que vous êtes sur des bonnes pistes en tout cas.
Poutine.
Alors, c'est à la fois quelqu'un qui est du monde de la musique et du cinéma. Oui.
Et comédien aussi.
Non.
Musique.
Mais bonne piste
Johnny
aussi.
Johnny.
Oui, exactement.
Ouais.
Oui. Johnny Hallyday vous a fait découvrir la vodka. Bon, vous auriez pu goûter, mais vous a fait découvrir les plaisirs de la vodka. C'est-à-dire que ça vous a.
Il m'a foutu un patch vodka qui fait que je, non pas que j'évite la vodka, mais que je suis amateur de vodka parce qu'il m'a appris, parce que je buvais du gin tonic par exemple, et il m'a dit, mais vodka tonic c'est mieux. Et donc j'ai commencé par la vodka tonic, c'est mieux, en effet, je confirme, et puis j'ai laissé tomber le tonic.
L'initiation,
lâchement.
Oui, c'est un peu comme Daniel Morin qui avant prenait un café Calva, maintenant double Calva, pas de café du tout, c'est ça.
Ouais, c'est mauvais pour la santé le café.
C'est ça. Mais quand on dit initier, généralement c'est accompagner d'autres choses que simplement prendre un verre. Est-ce qu'il vous a expliqué ce que ça a apporté, ce que
les vertus que ça avait? Ah non, il n'y a pas d'explication.
Rien.
Ah non, mais il explique bien pourtant. Mais la vodka, il m'a dit bois ça, tu vas aimer.
Voilà. Point. Et qu'est-ce que vous aimez dans cet alcool fort quand même?
Bah,
avec
fort,
modération, toujours.
C'est fort, oui, mais enfin, c'est moins fort que la 90. Hein.
Oui, mais c'est pas la même activité.
Je ne suis pas allé là encore. Ben, non, c'est parce que ça parfume la vie, ça enchante, ça me met dans une petite ivresse, c'est agréable.
Je rajoute avec modération, merci. Quelle émission télé, pourtant souvent adorée et saluée par la critique, déteste Patrice Lecomte?
Apostrophe.
Patrice Lecomte déteste. Non, pas apostrophe, mais
il
enfin, c'est
toujours.
Le Grand-Tichéquier.
Je crois que c'est revenu.
Brouillon,
ils ont tenté de la relancer.
Le Bouillon de Culture.
Non.
Le Grand-Tichéquier.
Capital, des trucs comme ça.
Non. 5 colonnes à la une.
Pardon, une émission que je peux pas blairer ou une émission qui peut pas me blairer?
Non, une émission que vous n'aimez pas regarder, vous.
Qui existe encore?
Ça, il peut pas la blairer, mais non, quelque chose non plus.
L'Académie des Neufs,
non, c'était pas un jeu.
Non, c'était bien.
Téléfoot.
Ça.
On est dans un domaine, on va dire, plus introspectif par moment.
Le divan.
Non.
Ah, Striptease.
Le journal de la santé.
Exactement.
Striptease.
Ah ouais.
Exactement. Qu'est-ce que vous n'êtes pas dans Striptease, qui est souvent présenté comme étant la vraie vie?
Oui, mais justement, ce que j'aime pas d'une manière générale dans Striptease, enfin, je me trompe peut-être, il y a peut-être des numéros de Striptease qui ont été exemplaires, mais ce que j'aime pas dans ce que j'ai pu voir, c'est l'esprit supérieur que se donnent les... C'est-à-dire qu'on regarde des gens mariage consanguin, cheveux gras, enfin, j'exagère, mais à peine...
Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de jugement...
Ça y a fait
pas
un peu
de...
dîner de con.
Il n'y a pas de commentaires.
Il n'y a pas besoin.
Non, mais on montre des gens qui ne sont pas des bêtes de foire, bien entendu, mais on montre des gens sans bienveillance, quoi. Il y a quelque chose de goguenard, de moqueur dans l'attitude, dans le regard de Striptease, et ça me convient pas, ça me plaît pas.
Ça vous gêne, quoi. Parce que c'est pas
comme ça que j'aime voir les gens que je pourrais filmer.
Mais alors, pardon, vous comprenez aussi qu'il peut y avoir dans des films ou dans des vannes quelque chose qui peut être gênant aussi pour une personne concernée. Je pense à Michel Blanc qui en prend pour son grade, et on va en venir tout de suite d'ailleurs sur Les Bronzés font du ski ou même la série des Bronzés. Il y a des vannes qui sont faites sur son physique, sur la boule à zéro. Oui, mais il peut y avoir quelqu'un de chauve qui entend cette vanne et qui la prend mal aussi, ou qui est touché ou vexé.
C'est le problème des chauves.
Donc dans Striptease, c'est aussi le problème de ceux qui...
Non, c'est pas tout à fait pareil, parce que dans les personnages qui ont tous leurs défauts, enfin qui sont souvent assez bas de plafond, mais enfin, il y a tellement de la part des membres du Splendide, tellement d'auto-dérision, de goût pour se moquer d'eux-mêmes, se moquer du fait qu'ils ont plus de cheveux, qu'ils n'arrivent pas à emballer, que ce soir ils vont pas conclure, que enfin c'est pas une bande d'abrutis, c'est pas ça, mais c'est des gens qui ont cette puissance incroyable de savoir se moquer d'eux-mêmes, et donc il y a pas d'embarras, je trouve.
C'est ce que j'apprends c'est ce que vous allez apprendre en découvrant le documentaire, c'est que justement tous les personnages sont très proches des acteurs eux-mêmes. De leur trait de caractère, en tout cas.
Oui, c'est assez proche.
Michel Blanc raconte que dans les booms, il se prenait des vestes et que Thierry Lhermitte ramassait tout le monde, quoi.
Oui, dans le personnage de Jean-Claude Duss, il y a beaucoup de vécu.
Il y a beaucoup de vécu dans Jean-Claude Duss, c'est ça.
Mais de façon, comme ils ont écrit eux-mêmes leur personnage, ils sont responsables de ça. Et ce que je trouve bien, justement, c'est qu'ils ne soient pas écrits des personnages brillants, sensationnels. Non, ils sont conscients de leurs limites, de leurs défauts. Et Thierry, qui est effectivement un très bel homme, lui, il s'est écrit un rôle de grand con, quand même. Et ça, c'est extra, quoi.
Est-ce que les acteurs ont pu souffrir de cette image-là, justement, de cette caricature?
Après deux Bronzés, Michel Blanc, par exemple, était... Enfin, c'est pas forcément très poilant quand vous êtes Michel Blanc, imaginez, et vous vous promenez dans la rue, puis il y a quelqu'un qui vous tape dans le dos en disant « Alors, tu vas conclure ?»
Ouais.
Bon, puis il ne pouvait pas reconduire ce personnage sans 7 ans non plus, parce que sinon ça lui aurait trop pesé.
C'est pas non plus une catastrophe, il a fait une super carrière après, oui. Et puis il a démarré avec ça.
Ouais, mais il a souffert un petit peu, parce que c'est lui qui a
On peut comprendre que dans la période folle autour des bronzés, même si ça dure depuis 40 ans, ça pouvait commencer à saouler avant justement de faire Monsieur Hir ou de faire ses preuves et de se sortir de cette image-là. Alors, justement, ce qui est fort, c'est que à la fois il y a la réédition du film. Alors est-ce qu'elle a subi quelques trafics techniques
l'image a été entièrement.
Vous avez rallongé des scènes en tout cas. Il y a pas de scènes rajoutées.
Bah non, on peut pas parce que tous les doubles, les scènes coupées au montage, ça
sont jetées. Non.
Mais pourquoi donc ?
Mais alors, quel assassinat ?
Non, parce qu'à l'époque, je vous parle d'un temps que les intermittents ne peuvent pas connaître.
On n'avait pas de budget.
Hein ?
Vous n'aviez pas de budget ?
Non, c'est pas ça. Ah. C'est qu'à l'époque, on tournait sur pellicule, c'était pas numérique, etc. Ouais. Donc le laboratoire conservait les doubles, les chutes, les scènes coupées, en fait, tous les éléments. Mais ça prenait de la place, une place énorme. Et au bout de, je sais plus si c'est 10 ans ou 12 ans, le laboratoire, c'était une tradition, téléphonait à la production en disant, on va détruire les doubles chutes négatives, etc. Est-ce que vous voulez les récupérer? Alors, soit le producteur a un grand appartement et dit, bah oui, je vais récupérer, ça me gêne pas. Et à ce moment-là, on aurait pu remettre la main dessus. Mais comme le producteur, et on peut pas lui en vouloir, a dit, bon, non, on en a pour besoin, vous pouvez
mais
détruire.
Si, on peut lui en vouloir. Hein, on peut lui en vouloir parce que.
Mais c'est trop tard.
J'entends. Mais dix ans après, le producteur était un peu au courant du succès quand même des bronzés. Oui. Il pouvait quand même se douter aussi du potentiel si les producteurs.
Non, mais c'est sûr. Finalement.
Il y a quelque chose de presque, je dirais, du domaine du musée, de l'histoire.
Et vous ne nous avez pas dit à un moment, je vais garder, je vais me débrouiller.
Non, j'ai pas eu cette plan d'esprit. Je sais même pas si j'ai été au courant. Je vous dis 10 ans, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est 5 ans ou 6 ans. Enfin, bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'au moment où tous ces éléments étaient détruits, le producteur, Yves Rousseroir, aurait peut-être pu se dire, dans le fond, je garde, on sait jamais.
Ouais. Sans forcément penser, il y a de l'argent à faire avec des bonus de DVD, mais producteur quand même. Les bronzés font du ski, le film lui-même a été remasterisé, ça veut dire quoi pour un profane?
Ça veut dire que l'image est superbe, très belle, les couleurs pètent, la définition de l'image, enfin, c'est vraiment un travail technique simple.
Que vous avez fait vous-même? Que vous avez suivi, en tout cas?
Moi-même, non, mais il y a des gens très 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 avisés qui font la même chose en mieux. Une espèce de lifting.
Mais vous avez un droit de regard, j'imagine, en tant que réalisateur, vous devez dire, là c'est trop coloré, là
ils n'ont pas changé l'image non plus, ils n'ont pas mis un blouson bleu.
Elle est très belle.
Mais j'ai pas de droit. J'ai pas exprimé le droit de regard. Je préfère faire confiance que faire méfiance. Ça me joue des tours, hein, mais je préfère être confiant.
Et il y a ce documentaire, ce DVD supplémentaire, qui est un véritable film, parce qu'il dure lui-même une heure et demie, dans lequel on revoit des extraits des bronzés qui viennent illustrer les propos de témoignages face caméra, avec ce que je racontais tout à l'heure, justement, sur la coucougnette de Thierry Lhermitte, qui est raconté par Josiane Balasko. Il y a aussi, je crois que c'est Marianne Chazelle qui dit assez clairement le cachet qu'ils avaient touché pour faire ce film.
Ils tous touchaient le même cachet.
10 000 francs à l'époque.
Oui, 10 000 francs. Enfin, on était encore en francs.
Oui, mais enfin, ce qui était symboliquement, ce que je veux dire, ce qui n'est rien par rapport au cachet qu'on peut imaginer du monde du cinéma et par rapport à la base de travail.
On avait été payé un petit peu plus cher pour faire le 2. Et on était payé carrément plus cher pour faire le 3. Non, mais c'est vrai.
Ne parlons pas de votre cachet pour le 4. Ce sera un truc fou.
Ah, bah là, on est en discussion.
Alors, vous dites.
Ça va pas pouvoir se faire.
Vous dites dans ce même documentaire, vous dites, quand après le succès des bronzés, j'avais dit, il n'y en aura pas.
On avait dit. C'est-à-dire Yves Rousseroir, le producteur, pendant le tournage même des bronzés 1, nous avait, quand ils sentaient que ça allait être bien, enfin bon, ils nous avaient dit, maintenant on va les envoyer à la neige. Non, on va pas faire une suite, pas une heure de... Donc on traînait les pieds, quoi. Mais on avait tort.
Et donc vous l'avez fait.
Il a eu raison d'insister.
Voilà. Et pareil pour les bronzés 3, vous avez dit non, jamais de bronzés 3. Et c'est quand même arrivé. Vous dites toujours dans ce documentaire, je vais arrêter de dire que ça n'existe pas, sous-entendu, donc ça va exister.
Non,
je sais. Il paraît que vous avez même un titre.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que quand on me disait y aura-t-il un bronzé 4, je répondais au début, je disais j'en sais rien, et j'ai fini par répondre. Oui, mon rêve, c'est de faire les bronzés en maison de retraite. dans quelques années, quoi. On peut attendre un petit peu quand même, parce qu'ils sont encore en bonne santé. Et puis de faire un film très méchant, en noir et blanc, même un truc pour la couverture de Télérama, même peut-être. avec des vieux méchants qui feraient des courses de déambulateurs, qui sont, enfin, une espèce de maison de retraite.
De Tati Daniel.
Peuplé Tati Daniel.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Mais on fera jamais ça.
Quand on vous reparle de ces bronzés, quand vous avez participé au documentaire et vu ce documentaire, quel est votre sentiment le plus profond?
Ben je suis à la fois émerveillé et fier, quoi. Émerveillé parce que je ne pouvais pas penser que 40 ans plus tard, on serait là ensemble à faire une émission autour de ce film et de fêter l'anniversaire. On ne se connaissait pas, vous n'étiez pas né. Et quand certains journalistes me disent « Bon, les bronzés, on oublie, hein. » Je dis « Comment ça, on oublie ? Vous êtes fous ?» Mais ça a changé. Enfin, évidemment, je suis très fier de ces films parce que je les trouve bien.
Et qu'est-ce qui fait qu'une vanne devient culte? Qu'est-ce qui fait que l'humour, ce qui n'est pas le cas de tous les films, quand on est parent et qu'on dit au gamin, il faut absolument que tu vois tel film, tu vas te poiler, et que là on remet le DVD et on a un sentiment de solitude, on regarde dans le coin de l'œil l'enfant disant mon Dieu, j'ai survendu le film qui ne survit pas justement à travers les temps.
Et l'enfant qui est en train de penser, mes parents ont un goût de chiotte.
C'est ça, ouais. C'est ça. Ce qui est pas le cas par exemple des films de Louis de Funès, ce qui n'est pas le cas des bronzés.
Non, en effet.
Et comment l'expliquer?
Je sais pas, parce qu'au moment où on écrit ces vannes, au moment où on les tourne, au moment où on les joue, comment imaginer que ça va rester et que des expressions vont être reprises
dans le langage courant presque, hein. Il y a des expressions dans le langage vraiment, c'est ça.
Bah, sur un malentendu, ça c'est ça devient une expression courante, quoi.
La vie est une jungle.
Être un Jean-Claude Duss, c'est une expression aussi.
Ouais, carrément.
Être un Jean-Claude Duss, c'est un Jean-Claude Duss.
C'est devenu un nom commun.
Il est bien placé pour le savoir, lui.
Qu'est-ce qu'il a, le peignoir?
Non mais t'as de la pâte, t'as du sucre, tout ça c'est fou en fait. Et en revoyant le film, on se dit mais oui, tout est en fait, ça vient de là, comme si on pouvait avoir oublié l'origine.
On retrouve l'étymologie des expressions françaises.
ce qui est marrant aussi, je vais pas régulièrement faire du ski, mais c'est vrai que quand on est sur un télésiège et qu'il y a une petite panne et que ça s'arrête, il y a tout le temps deux ou trois télésièges ou 12 qui chantent « Quand te reverrai-je, pays merveilleux oui, » ou « Ceux qui s'aiment »
alors que ça devait être Étoile des Neiges initialement.
Oui, en effet. Mais les droits étaient... Jean-Claude Duss, Michel Blanc chante « Étoile des Neiges » sur le télésiège. Donc on a enregistré Étoile des Neiges. Et puis on a appris après que c'était vachement cher, les droits d'Étoile des Neiges. Je sais pas qui touche, mais enfin, c'est la peau des fesses. Et donc on a fait à la manière d'eux. Enfin, on croit qu'ils chantent Étoile des Neiges, mais non.
Oui, c'est ça. On a l'impression
que c'est les mêmes rimes.
Mais incroyable. Ouais. On a l'impression de connaître la chanson, et pourtant, mais maintenant, on la connaît bien, oui. Et ça, c'est de la post-production. C'est refait en studio après le tournage.
Quand on reverrai, pays merveilleux.
Tu le vois que ça combine.
Ceux qui s'aiment vivent à deux.
J'aime le bruit de la chute dans la neige.
Le cri. Quand il hurle.
Quand il s'achète en rythme, maintenant.
Moi, ce que j'aime énormément aussi, c'est.
Quand on reverrai, pays merveilleux.
Et d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, c'est la scène où Thierry Lhermitte et Christian Cavier se retrouvent à table et parlent d'une fille avec qui Thierry Lhermitte a passé la nuit.
C'est dans le premier, celui-là.
Oui, c'est dans le premier. Avec,
mais
c'est
Daniel a révisé, lui.
Ah, ouais.
Oui, mais c'est dans le documentaire.
Ouais, d'accord.
Qui est dans le coffret. Avec les parents à côté. J'avais oublié la rapidité avec laquelle Thierry Lhermitte quitte la table. Et ce qui est aussi drôle, d'ailleurs, que la claque que reçoit la fille par ses parents.
Oui, c'est les deux.
C'est de l'impro, ça, c'est quoi? C'est la direction d'acteur?
C'est des films, mine de rien, avec quelques petits trucs rajoutés par-ci par-là parce qu'ils sont inventifs, mais c'est des films très écrits. Enfin, vraiment très écrits.
Vous l'avez gardé le script? Est-ce que vous avez gardé le script avec les polaroïdes de la script du tournage? Vous l'avez pas gardé non plus?
Non. Mais je suis désolé, c'est navrant.
Et vous répétiez beaucoup les scènes?
Non, on répétait pas. Non, on faisait une mise en place sans jouer. pour pas user, enfin pour avoir cette espèce de fraîcheur. Merveilleuse fraîcheur, ouais, des comédiens. et puis une fois que c'était en place, lumière, caméra, etc., on y allait. Oui.
Parce que la scène de la gnôle, je veux dire, où il goûte cette gnôle incroyable,
on peut pas faire 40 prises de ça.
Omar Chazal tombe vraiment, comme si elle est géniale.
Non, mais on peut pas. C'est des scènes difficiles à tourner.
Ouais. Et pour en revenir,
parce qu'on peut pas exploser de rire non plus.
Et pour en revenir sur la scène de la claque, celui qui donne la claque, et là on en revient, et vous le racontez dans le documentaire, au problème de budget, celui qui donne la claque travaillait sur le film.
C'est le directeur de production, carrément.
Voilà.
Michel Choquet.
Le bien nommé.
Et quand on revoit le film, là c'est le régisseur qui fait ça, c'est enfin tout le monde est dans le film.
Et j'apprends que
la femme
la femme de Thierry Lhermitte était dans le film aussi.
Oui, absolument.
Alors qu'il jouait les playboys qui comptaient les kilos.
C'est pour ça qu'elle est venue surveiller.
Tu voulais dire, Alexis?
Non, je voulais vous demander si les dialogues avaient été retravaillés en équipe, c'est-à-dire étant donné que faisaient partie de la troupe du Splendide, est-ce qu'ils ont apporté également de la vanne, adapté un petit peu les dialogues?
Oui, un peu, bien sûr. Enfin, on dit volontiers qu'ils écrivent chacun leur propre personnage, qui est vrai, mais ensuite c'est soumis aux autres. Enfin, c'est à la fin, ça devient une écriture commune, quoi. Bien
voilà,
sûr.
C'est ça. Vous allez avoir des révélations maintenant, mon cher Patrice Lecomte, avec François.
Sorry Nagui, aujourd'hui exceptionnellement c'est moi, ah oui, Jean-Philippe, le cousin.
Vous ressemblez tellement.
Ouais, on est vaguement cousins, et moi je suis le cousin de Philippe Manœuvre. Alors je dois le dire, François était hospitalisé hier soir à cause d'un décrochement de mâchoire provoqué par des crises de rire à répétition. Il a failli crever comme Jean Rochefort alors qu'il visionnait les bronzés fonds du ski pour préparer l'émission. C'est un pro, lui. Alors à l'hosto, il m'a dit ce qui voulait dire, je crois, Jean-Philippe, sois cool, sois whiz, tu es vraiment le seul dans la bande originale à pouvoir me remplacer dignement, et embrasse bien Nagui très fort pour moi. Bon, alors, salaud. Alors, je vais être franc avec toi, Pat, j'ai pas revu les bronzés fonds du ski, et tu sais pourquoi, you know why, because en ce moment, des 40e birthday essentiels, j'en ai un max à fêter. 2019, c'est le 40e anniversaire de The Wall, des Pink Floyd, de London Calling, des Clash, et surtout les 40 bougies, 40 candles, de l'album Highway to Hell, juste avant que Bon Scott, le chanteur de AC/DC, en sortant camé du Music Machine, aujourd'hui le Coco à Londres, meure étouffé dans son vomi sur la banquette arrière de la R5, la R5, dont son best friend Alistair Kinner. Yes man, 79, c'est une fucking grande année pour le rock. Putain, quand je parle de rock, c'est autre chose que les commentaires scolaires d'Antoine Decaune. D'ailleurs, Nag, comme tu me le disais ce matin, je te cite, Two Joints, Decaune, Joke. C'est hallucinant qu'il l'ait remis à l'antenne. C'est hallucinant qu'il l'ait remis à l'antenne avec son émission Flop, Flop, Flop. Il est juste bon à fêter les 40 ans de la sortie en 79 de Haut les Mains de Ottawa. Tu te souviens, Haut les Mains, donne-moi ton cœur. Ouais, c'est une bloody comme Mary. Et encore, je répète pas ce que Leïla me faisait remarquer tout à l'heure quand elle m'a dit entre deux sniffs de desktop, deux points, j'ouvre ses guillemets, plutôt que de célébrer cette pochade des bronzés, si tu veux parler zik, c'est aussi les 40 ans de deux divas qui chantent complètement faux. La Russo et Léa Salamé. Fin de citation. Heureusement, je le répète pas, même si c'est pas faux. Bonne émission, so long.
Merci, Albert.
La boule originale. Nagui sur France Inter.
Impossible de ne pas parler de ce film sans écouter cette musique, et dès qu'on a la musique, on a toutes les vannes qui vont autour, on a toute l'ambiance, et apparemment vous aimez pas ça.
Je suis pas fan de cette musique.
C'est fou.
C'est parce que c'est vous qui chantez que vous n'êtes
pas. Non.
Pourquoi
Je sais pas qui chante d'ailleurs, je sais pas. Qu'il nous appelle. Non, je ne suis pas fan de cette musique. Pas mon goût musical.
C'est Pierre Bachelet
qui avait composé ça, et tout le monde a cette musique en tête. En en pensant que je l'adore, mais...
Mais alors, pardon, quel est le droit d'auteur ou le droit du réalisateur de dire oui ou non à la musique?
Maintenant, je suis devenu... Enfin, j'adore imaginer la musique, travailler avec le compositeur, enfin, ouais. Bon, etc. Mais à cette époque-là, je m'en foutais un petit peu. Et puis, c'est pas très commode d'imaginer de la musique pour une comédie ou qui va très vite tout ça. Donc, quand Pierre Bachelet m'a proposé ça, j'ai dit ouais, c'est super. Mais avec le recul,
mais c'est super. Chose, alors, mais Patrice, sincèrement, c'est bien. Elle est bien, elle va bien. Enfin,
mais c'est vrai ce que vous avez dit. On a de films en accéléré qui nous passent
mais
à
oui.
tête, rien qu'à.
Bah oui.
Bon, alors, donc, d'aujourd'hui, ouais. J'adore ça. Mais à partir d'aujourd'hui, et grâce à vous...
Vous auriez aimé quoi ou qui?
Vous imaginez...
Ah, j'en sais rien.
Non, mais là, maintenant que vous travaillez plus en collaboration...
Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Ah, ouais. Non.
Le concerto numéro 5, le mouvement numéro 2...
Les Morricone composent les Brosés.
Voici Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Ouais.
Ça va bien. Très heureux de vous retrouver. Surtout très content de reprendre le cours d'une semaine normale. Sans Halloween, une semaine française, quoi. Voilà. Parce que sérieusement, la Toussaint, ça suffisait pas comme fête. C'était nécessaire de rajouter une soirée déguisée et alcoolisée la veille d'un jour où on est censé aller déposer des gerbes de fleurs sur les tombes des morts. Moi, j'aime pas Halloween. J'aime pas. Alors vous allez me dire, mais c'est bien Halloween, pourquoi t'aimes pas? Alors j'y viens, laissez-moi le temps. Premièrement, parce que c'est commercial. Et moi, je suis pas du genre à me faire avoir. Mis à part cette histoire de salaire, dont faudra qu'on parle. Hein, parce que j'ai l'impression que les messages subliminaux, personne ne les comprend.
Non, c'est pas comme ça.
Et de deux, parce qu'il faut se déguiser. Ah. Et moi, j'aime pas les soirées déguisées.
Pourtant,
je peux comprendre. Attends, Daniel, tu vas voir. J'ai pensé à toi. Je peux comprendre que certains aiment se déguiser. Parfois, une citrouille sur la tête rend plus belle la personne qui la porte. Qui n'a jamais dit, dis donc, Daniel, ça te va bien?
Ah, mais,
tac. Voilà. Allez.
Et boum.
Bim. Ça s'est envoyé.
Mais si c'est pour se retrouver dans une soirée avec des mecs déguisés en joueurs de foot parce qu'ils avaient rien d'autre sous la main, non merci, je passe mon tour. Surtout que ces gens-là se sentent toujours obligés de se justifier en te disant « Je sais que c'est pas terrible, mais je bossais aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de m'occuper du déguisement. » Ben on l'espère, parce que si t'as hésité entre ton maillot qui pue et un déguisement incroyable de pompe à essence et que t'as choisi le maillot, ben t'aurais dû rester chez toi en fait, à regarder le foot, voilà. Dans les soirées déguisées, t'en as toujours qui sont très premier degré aussi et qui sont persuadés d'avoir trouvé le déguisement parfait pour passer inaperçu. Tu sais, c'est ceux qui se posent devant toi et qui te disent « Devine qui je suis ?» Toi, t'es là. « Ben, Quentin ?»« Ah ouais, comment tu m'as reconnu ?»« Ben, je sais pas, peut-être parce que tu mesures 2m03 et que tu choses du 52, va savoir. » Bref, j'ai pas fêté Halloween édition 2019, mais je m'en souviendrai parce que j'ai croisé à peu près 300 jokers dans les rues de Paris. Ouais, la vie est cruelle. Hein. Tu te prépares et tu te maquilles, ça prend du temps. Tu sors en te disant quelle bonne idée j'ai eue. Et là, tu croises un premier joker en sortant de chez toi, un deuxième dans l'ascenseur et un troisième dans le métro. Et soudain, t'as envie de tuer à ton tour. C'est pas dur d'incarner le joker. Hein. Franchement, on est là. Oui, Joaquin Phoenix, il est génial.
C'est bien.
Pas mal.
Moi, je serais toi, je m'arrêterais là.
Arrêtez là.
C'est
génial.
C'est quoi là?
Non.
C'est écrit pesant pour créer un blanc. Voilà.
Ah ouais, c'est volontaire.
Ce que vous disiez, Patrice, hein, c'est vraiment c'est minutieux.
Tout est écrit.
Après, tout est écrit.
Voilà.
C'est fait?
Non.
Ah, pardon.
Moi, j'aime bien quand on m'invite à des soirées. Parfois juste pour pouvoir répondre, désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu. Ce qui renvoie l'image d'un type assez sollicité, dont l'absence regrettable va sans doute plomber l'ambiance de la dite soirée, qui d'ailleurs s'annonce déjà comme une soirée de merde, puisque j'y vais pas. Mais pour Halloween, on m'a même pas invité. Je vous jure, depuis cette histoire d'hélicoptère là dont je vous ai parlé une fois, j'ai l'impression d'être sur liste noire. Un peu comme avec la DRH de France Inter, d'ailleurs. Allez, bonne semaine, messieurs.
Merci,
Axiom.
Bravo.
France Inter, midi. La bande originale.
Et t'es toujours au point virgule
toujours,
avec Silo Rossignol.
Bah les jeudis, vendredis, samedi à 19h.
À 19h.
Il reste
voilà.
Des places. Hein. Pas mal.
Et... Venez.
Pas mal. Tu m'étonnes.
Non, j'ai vu le spectacle, il est super bien. Il est super bien le spectacle.
On a fait une enquête, Patrice. On a fait une enquête très sérieuse. Il s'appelle Jean-Denis Pérez, le monsieur qui chante.
Qui chante et qui s'est coincé et quelque chose dans une porte.
Et qui est plus connu, ou pas, sous le nom de Dan Perlman.
Ah, Dan Perlman.
Beaucoup plus connu.
Ouais, Dan Perlman.
Non, mais c'est une race de chiens, ça.
Arrêtez. Ouais. Allez, musique, puisque c'est la bande originale de Patrice. De Patrice
cette émission part en
de Patrice Lecomte, avec cette bande originale. Vous écoutiez en 1970 les Sparks. J'adore.
C'est mieux, non?
C'est vachement bien.
Ah, c'est mieux.
Ils avaient fait avec Rita Mitsouko Singing in the Shower aussi, qui était vachement bien. En plus, ça vous va bien physiquement, les Sparks.
Ah oui.
Vous auriez pu faire partie
du
duo.
Le côté étincelle.
Le côté sec, comme ça. This town ain't big enough for
il va
both
partir.
Of us.
Non, c'est vrai. Non, le côté sec.
Oui, sec. Vous rappelez l'image des Sparks ou pas?
Très bien, très très bien.
Très anguleuse.
Ouais, c'est ça, très anglaise et anguleuse. Ouais. 77 musique, vous rappelle quoi ou qui?
Les Sparks.
Oui, c'est pourquoi
ouais, ça me rappelle la musique que j'aurais aimé mettre sur le générique.
70, c'est l'époque pilote où comment quand on est fan, qu'on aime quelqu'un et qu'on ose le lui dire, on est amené à le rencontrer. Ça, c'est votre histoire.
Oui, c'est mon histoire, mais c'est une histoire quotidienne. Il faut tout le temps prendre des notes, sans blague. Quand on aime les gens, il faut leur dire.
Ouais.
Tout le temps. Mais dans la vie courante, ou un artiste, ou je sais pas quoi. Et quand on se dit, oh non, je vais pas lui dire, on lui a déjà dit 100. On vous l'a déjà dit 100 fois, mais j'aime ce que vous faites. Eh ben, ça fera 101 et c'est bien.
Ouais.
Et il faut, alors,
et donc, vous aimez, les gens qui viennent vous voir en vous disant,
j'aime aller trouver les gens.
Et l'inverse aussi.
Me procurer leur téléphone, leur dire, je viens de voir votre film. Enfin, tout. Enfin, bien sûr. Parce que c'est très agréable comme démarche. Et quand ça vient vers soi-même, c'est agréable aussi. Et à cette époque, en 70, je lisais Pilote, qui était un magazine de bande dessinée absolument formidable, hebdomadaire, et j'adorais ce que faisait Gottlieb.
Marcel Gottlieb, génial.
Il était génial.
Et la rubrique à braque et
La rubrique à braque, c'était formidable. Ah, non, et les dingos aussi avec Goscinny et puis plein d'autres trucs. Mais
là on retrouve l'humour absurde dont vous parliez avec Jean Rochefort aussi au téléphone, c'est-à-dire qu'il y avait avec la coccinelle dans les.
Donc
dans
j'ai écrit au journal à Gottlieb en disant j'adore ce que vous faites. Ouais. Vous voulez pas qu'on prenne un café? Et il m'a dit ouais. Quand est-ce qu'on se voit?
C'est génial. Et ensuite?
Et après on est devenus très amis.
Et ça vous mène aussi à Goscinny?
Oui, parce que une fois que j'étais copain avec Gottlieb, qu'on se voyait assez souvent, on allait au restaurant, on allait voir des films, etc. Un jour, je lui ai montré les dessins que je faisais, et il m'a dit, c'est intéressant, je vais les montrer à Goscinny. Goscinny m'a fait appeler par sa secrétaire, m'a dit, est-ce que je peux vous voir? Il m'a dit, je l'ai vu dans son grand bureau, aux éditions d'Argo, il avait mes dessins sous le nez, et il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler au journal? Et tout ça, c'est comme un conte de fées, quoi. Quand on pense aujourd'hui aux gens qui ont 10 000 fois plus de talent que je n'en avais à l'époque.
Non,
mais non. Si. Et qui rament pour essayer de vendre, de travailler. Mais oui, j'ai eu la chance. Mais la chance, vous savez, c'est un truc, si on vit les bras croisés, la chance, elle passe, on l'attrape pas. Mais oui. Si on vit les bras ouverts, continue à prendre des notes. Je vous dis des grands principes vitaux.
La chance, c'était mon numéro de téléphone.
La chance, il faut la saisir. Il faut pas insulter l'avenir non plus, mais on la provoque aussi, la chance.
Elle se provoque, elle se guette. Mais elle se provoque, oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, vous convoquez aussi la chance, quelque part, dès 70, puisque vous réalisez un court-métrage sur les grands de la bande dessinée, et vous commencez avec Gottlieb, qui incarne donc son propre rôle. C'est une première réalisation aussi, quelque part. C'est, on s'approche aussi du métier que vous allez... qui va vous faire connaître.
C'était un numéro zéro, c'était un producteur... Un producteur escroc, c'est pas un pléonasme. Il y a des producteurs extra honnêtes et tout ça, mais celui-là était pas mal honnête, mais il était un peu incompétent. Et il avait le projet de faire une série de films de courts métrages de 20 minutes, 25 minutes, sur tous les grands noms de la bande dessinée. Et le numéro zéro, c'était Gottlieb. Et j'avais fait, mais
le pilote, comme on dit dans le métier.
Le pilote, en effet, ça tombait bien. Et il y a eu que ce numéro zéro.
C'est dommage parce que c'était visionnaire. À l'époque, il n'y avait rien sur.
Non, il n'y avait rien. Et ça s'appelait Tout à la plume, rien au pinceau.
En 1900.
C'est un bon titre.
Ouais, c'est
pour Jacques et Michel.
Et on peut
aussi.
Voir ça. Ouais, c'est
un Strasbourg Saint-Denis.
Vous l'avez, ça encore? Est-ce que vous l'avez,
ça existe quelque part, je ne sais pas où.
Arrêtez de jeter les.
Vous n'êtes pas conservateur.
Je ne suis pas. Non, je.
Faites amuser Patrice Lecomte, je vous assure.
Non, oui, bien sûr. Mais j'adore. Maintenant, je ne déménage plus. Mais j'ai adoré chaque fois que je déménageais parce que ça m'a permis de virer. Mais des trucs, des tombereaux, des merveilles.
C'est ça. 1985, vous écoutiez.
Adios,
Carlos Santana. C'est
ah
bon,
oui,
ça.
Ça, je veux ça aussi, c'est bon. Je l'écoute encore, tout le temps.
Mmh. Mais tout Santana est vachement bien.
Tout, tout.
Europa, Samba Bati, c'est que des titres formidables.
C'est formidable. Et puis, il y a... Comment rester immobile, quoi?
Il y a une ambiance.
Il y a une ambiance et une nonchalance en même temps, quelque chose d'extrêmement léger mais qui te donne envie de chalouper.
Et 85, c'est l'année de sortie des spécialistes. Par le passé, votre filmographie s'est plutôt tournée du côté de la comédie.
C'était que des comédies.
Que des comédies. Et là, un jour, on vous propose un projet de film d'action. C'est le producteur, je crois, qui vient vous...
Oui, Christian Fechner, qui était un homme que j'adorais, qui était vraiment un producteur... qui était pas frileux et qui m'avait fait venir un jour dans son bureau et qui m'avait posé cette question basique. Patrice, est-ce que vous voulez faire toute votre vie des comédies? On se voyait, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, on s'est jamais tutoyé.
C'est chic.
Et c'est très chic. Et comme tu dis. et je m'entends encore lui répondre, des comédies, oui, non, je m'étais jamais posé la question. Et je lui dis, pourquoi Christian? Il me dit, parce que voilà, j'ai un projet... Un film d'action, d'aventure, Lanvin, Giraudeau, Côte d'Azur, le casse du siècle. J'ai dit, c'est super, on commence quand?
Mais non.
Ben oui, j'ai pas... Un truc comme ça, on réfléchit pas...
Sur le papier, c'est pas...
Deux ans. Hein.
Alors ça veut dire que quoi, comme vous aviez un savoir-faire très comédie, aborder ce film de genre, c'est se dire, il va falloir que j'en vois beaucoup, ou tout d'un coup que je mette les ingrédients en place, ou pas?
Non, j'ai pas révisé en voyant tous les films d'action et ça, j'ai fait à mon idée, comme j'aimais, quoi.
Ouais, mais c'est une comédie.
Hein?
C'est une comédie.
C'est une comédie aussi, mais ça a des potes.
Enfin, ouais, c'est vrai. Ouais.
Oui, mais c'est une comédie. Oui.
Alors, ce qu'il avait vu en vous, c'était la réalisation, le rythme. C'est parce que la comédie est une question de tempo aussi.
Il avait dû voir en moi quelque chose de, je sais pas ce qu'il avait vu, mais enfin, en tout cas, il avait bien vu parce que j'ai adoré faire ce film et je me suis rendu compte en faisant ce film qui a changé effectivement ma vie parce que je me suis ouvert à plein d'autres trucs. Je me suis rendu compte à quel point c'était motivant de faire des choses qu'on n'est pas sûr de savoir faire.
Oui.
C'est le rôle d'un bon producteur, justement, d'aller
déceler ça. Ouais.
On continue à prendre des notes. Hein.
1900...
Enfin, je vois pas beaucoup qui prennent
des notes. C'est une masterclass aujourd'hui.
Mais vous savez que tout est enregistré, c'est Patrice. Là. 1997. It's wonderful, it's wonderful. Ça aussi, c'est une BO, ça. Il y a plein de films qui sont servis de ce titre de Paulo Conte en BO. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Via comme mes Paulo Conte, là ça vous renvoie à quelles images dans cette chanson?
Ça me renvoie aussi et surtout, alors que je connaissais bien le travail de cet homme-là, ça me renvoie aussi, j'ai vu tous ses concerts, enfin bon, chaque fois qu'il est passé à Paris, ça me renvoie surtout à une rencontre formidable avec Paulo Conte, on est devenus assez copains, parce qu'il avait un projet de film musical qu'il avait écrit entièrement, qui s'appelait Razzmatazz, et les musiques étaient mais formidables. Ça racontait l'histoire d'une chanteuse noire, le Paris des années 20, et tout ça. C'était un budget conséquent, mais c'était un beau projet. Et puis, lui et moi, on se disait, c'est bien parce qu'on va mettre Paulo Conte, Patrice le Conte, et on mettra C-O-N-T-E en gros, on mettra Conte en commun sur nos deux noms.
C'est drôle.
Et rien que ça, ça me bottait.
Et 97, on vous retrouve avec Ridicule, qui est couronné du César du meilleur réalisateur et du meilleur film de César d'un coup. Alors, vous cachez pas le fait que ça fait plaisir, mais finalement, ça change pas vraiment la donne pour vous.
Non, ça change pas la donne parce que rien n'est jamais acquis définitivement. Arrêtez de prendre des notes, ça me gêne. Rien n'est jamais acquis définitivement. Je veux dire par là que vous faites un succès, voire même un triomphe. Et la fois d'après, vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis et vous péter la figure et être à côté de la plaque. Et puis, c'est pas parce que vous avez fait tel et tel et tel film que les producteurs dorment sur votre paillasson avec un chèque.
Ça s'appelle l'humilité, ça, justement.
C'est toujours un peu mal placé, l'humilité. Mais
c'est fragile et que justement, ce sont des moments à vivre avec intensité. Recevoir les Césars en disant ça ne change rien, ça ne veut pas dire, ça n'enlève pas le carpe diem du moment.
Ah non, mais ça change rien, c'est-à-dire, il faut toujours être vigilant, pas faire n'importe quoi, être exigeant, etc., etc. Mais c'est pas du tout pour bouder son plaisir. Moi, le soir des Césars,
simplement ne pas tomber dans la suffisance, mais ça peut donner de la confiance d'avoir.
C'est-à-dire que le succès, ça dépend des gens. Hein, mais le succès, ça peut pousser à l'arrogance et puis vous roulez des mécaniques et vous prenez tout ce que vous n'êtes pas. Et donc ça, c'est pas une bonne attitude. Enfin, non. Chacun fait ce qui lui plaît. Mais moi, c'est pas comme ça que je marche.
Bonne référence.
Bonne référence. Et c'est pour qui tout. touche des droits. Et moi, le succès, les choses joyeuses de ce métier me donnent des ailes. Ça donne confiance. Mmh. Donc ça me rend pas arrogant. Mmh. Ça me donne juste une espèce de confiance un peu béate. Enfin, ça rend heureux, quoi.
On va continuer par les cinémas avec Philippe Gedge. Bonjour Philippe, merci de venir à ce micro. Vous êtes critique au Point Pop. Vous avez signé en 2019 avec Vincent Tabouret propos sur l'amour au cinéma aux éditions Lardy. Nous évoquions tout à l'heure la manière dont les Bronzés ont traversé ces quatre décennies sans prendre une ride en termes d'humour, et cet humour est culte. Est-ce que vous avez une explication?
Bah, ce qui joue beaucoup, c'est les multidiffusions à la télévision de ce film. Alors, ces multidiffusions, évidemment, elles sont liées au fait que à chaque fois, il y a énormément de gens qui regardent et qui rient comme des baleines.
Ah oui.
Ils rient comme des baleines parce que, en fait, derrière ce film, on dirait pas comme ça, mais Patrice a mentionné le mot à un moment, travail. Et il y a énormément de travail dans ce film, que ce soit l'écriture des personnages, la mise en scène. Et en effet, il y a dans l'écriture des dialogues un vrai raccord entre ce qu'étaient les acteurs, on pense évidemment à Michel Blanc et Jean-Claude Duss, et les personnages qui sont composés à l'écran. Et du coup, il y a vraiment une sensation d'authenticité très grande chez ces losers un petit peu minables, mais auxquels à divers degrés on s'identifie tous un peu, qui fait que ces dialogues-là, on les retient et ils traversent les générations. Quand je revois la scène, bon, j'ai revu le film aussi hier soir,
bah
là,
oui, évidemment,
ski, évidemment. Quand on voit la scène notamment où le personnage incarné par Roland Giraud, qui est le mari cocu,
oui,
dont la femme a trompé avec le personnage de Thierry Lhermitte, la scène où donc Giraud ramène ses affaires à Lhermitte parce qu'il est rentré plus tôt que prévu, cette scène, c'est un bijou de mise en scène. Et on la retient non seulement parce que les dialogues... Mais non, mais je rends hommage... Il faudra rendre hommage aussi à Yves Rousset-Rouart, le producteur, je viendrai tout à l'heure, mais il faut vraiment rendre hommage à la mise en scène de Patrice Lecomte, parce que cette scène-là, il y a trois actions en parallèle, on s'en rend même pas compte. Il y a le chrono qui a déclenché Thierry Lhermitte et qui va démarrer la course de Christian Clavier, qui fait un test parce qu'il doit passer une course, il doit faire une course en ski le lendemain. Et il y a Roland Giraud qui vient pourrir Thierry Lhermitte parce que c'est l'amant de sa femme. Et à l'arrière-plan, on a Gérard Jugnot, qui est le pote de Lhermitte, qui a déclenché le chrono et qui a oublié de regarder le chrono et qui assiste à la scène et qui n'en perd pas une miette. Et en fait, nous, on voit à la fois Giraud en train d'engueuler Lhermitte, on voit Jugnot derrière qui n'en perd pas une miette et qui sait pas trop où se mettre. Et on sait derrière qu'il y a Clavier qui descend sa piste et qui attend de faire un score. Et dès que la scène se termine, on est déjà mort de rire parce que Giraud les dialogues sont trop drôles, quoi. Je ne vous mets pas mon poing sur la gueule. Enfin bon, on retient ses vannes. Et dès que la scène se termine, en fait, il y a un autre gag qui arrive juste derrière, qui est le fait que Clavier arrive. Jugnot a oublié de regarder le chrono, donc il ose pas le dire à Clavier, qui attend de dire alors quel temps j'ai fait. Et Jugnot lui dit, il lui sort un temps complètement 42, imaginaire. Ouais. Voilà. Et cette erreur-là de chronométrage va avoir une répercussion sur la scène d'après, parce que Clavier pense qu'elle est super balèze.
C'est la descente aux enfers.
Et voilà,
c'est que chaque situation en entraîne une autre.
Et c'est ce qui fait, je pense, la force de ce film, encore plus que Les Bronzés, qui était aussi très très bien écrit. Mais Les Bronzés font du ski. Ce qui fait que les gens l'ont tellement retenu, c'est qu'il y a un travail d'écriture et d'abattage, mais au sens noble du terme, dans les gags. Il y a une mécanique du gag sans arrêt et des répliques, en effet, qu'on retient très très facilement.
Parce que aussi à l'époque, ils se permettaient tout. C'était un moment où il n'y avait pas de préjugés sur la vanne en disant est-ce qu'on peut pas, il y avait un lâcher prise.
Oui, alors je sais que Patrice Lecomte aime pas trop les c'était mieux avant, parce que c'est toujours un peu une réflexion de vieux con, mais c'est vrai que de toute façon on était dans une époque sans réseaux sociaux où il y avait une plus grande insouciance, innocence. Ça avait aussi ses défauts, hein, tout n'était pas à chaque fois il y a un revers de la médaille, mais c'est vrai que par exemple la scène dans le chalet où vous l'aviez mentionné,
les Italiens
visitent
la chambre d'à côté.
Voilà, on peut dire ça. Et à un moment, Gérard Jugnot pète un câble et il dit « Mais ils vont pas s'arrêter, les macaronis ?»
Oui, j'y vais.
Bon,
aujourd'hui, ça serait pris pour une insulte.
Mais en même temps, ça s'explique, puisque le personnage est beau, un petit peu raciste sur les bords. Tout cela n'était pas gratuit du tout. Mais c'est vrai qu'on se posait moins de questions.
Ouais, en même temps, La Tour Montparnasse Infernale, par exemple, c'est un film que j'adore, qui est pas politiquement correct et qui est pourtant pas si vieux. Et ça marche encore. Il y a encore.
Oui,
il y a
encore
pour ça. C'est encore possible.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le producteur?
Parce que vous pensez que le mérite aussi dans l'ombre. Je ne veux pas faire de gaffe. Je ne sais pas quels sont les rapports entre Yves Rousset-Rouart et Patrice Lecomte.
Que des virements bancaires.
sûrement. Mais bon, à la base, Yves Rousseyroir, et qui est donc aussi dans la vie, je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, l'oncle de Christian Clavier, c'est Yves Rousseyroir qui a impulsé le fait de faire ce film Les Bronzés, après être allé voir la pièce de théâtre de la troupe du Splendide Amour, coquillage et crustacés, ouais. au théâtre de la rue des Lombards à Paris. Et c'est Rousseyroir qui... il a entendu les rires dans la salle. Donc, Amour, coquillage et crustacé, c'est la pièce qui ensuite allait donner lieu au Bronzé au cinéma. Mais c'est Rousseyroir qui, en écoutant le public qui pleurait de rire à cette pièce, va aller voir, dès la fin de la représentation à laquelle il assiste, la troupe des Bronzés. Et il leur dit, bon, bah, les gars, voyons-nous demain, je vous invite au resto. Et puis, on décide de faire un film à partir de là. Et c'est lui qui a aussi insisté, mais ça, Patrice, vous l'avez dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une suite au Bronzé. Les Bronzés font du ski, suite dont ne voulait pas la troupe du Splendide. Michel Blanc notamment était résolument contre. Et d'ailleurs, bon, ils l'ont fait finalement parce que Rousseyroir leur a fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, je pense tous, en termes financiers notamment. Bon, on n'est pas complètement d'accord, mais bon, le fait est qu'ils ont tous accepté. Mais ça a entraîné d'ailleurs des tensions sur le tournage, et ça a été d'ailleurs le début d'une fracture plus importante au sein de la troupe du Splendide, parce que Michel Blanc était pas du tout ne co-signe pas d'ailleurs le script des Bronzés font du ski, et il y a eu un début de scission comme ça dans la troupe, même s'ils se sont retrouvés des années après pour les Bronzés 3, et que toutes ces fâcheries se sont terminées.
Est-ce qu'il y a des héritiers, entre guillemets, une troupe qui arrive, une bande de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices qui vont pouvoir passer là aussi
J'attendais cette question brillante.
C'est gentil.
Vous avez préparé la réponse.
Voilà,
nous
exactement.
Sommes impatients parce que moi je vois pas qui.
Non, en fait, juste.
Moi j'ai une petite idée.
Ah bah alors allons-y.
Bah, en termes de troupe, évidemment. Après on a eu les nuls, on a eu les Robins des Bois qui correspondent peut-être davantage à la configuration du Splendide.
Ouais,
aujourd'hui.
Là aujourd'hui, ouais.
Ah là, vous me posez une colle. Je vois pas trop. Peut-être la bande de Philippe Lachaud.
Exactement. Je pensais à la bande de Fifi.
Trop fort.
Ouais, je pensais à la bande de Fifi parce qu'entre les babysitting, enfin ce qu'ils ont fait les uns et les autres,
c'est vrai.
Même indépendamment, il y a une forme d'humour qui est d'une génération, mais qui peut. On verra.
Alors après,
c'est le temps qui fera.
Ces films-là me font beaucoup moins rire, mais après c'est une question de goût personnel. Mm. Mais c'est vrai qu'en termes de jeunesse de cette bande, comment cette bande s'est formée, la bande à Lachaud d'abord.
Et pareil, fait de briques et de brocs aussi. Avec des petits des GoPro ou des petites caméras façon Blair Witch pour faire les premiers films.
Il y a un héritage de l'esprit bronzé.
Alexis,
c'est pas
fou.
Il y a un film qui arrive aussi réalisé par Cairon avec Artus. Guillermo Diaz va jouer dedans.
Brutus versus César.
Et d'ailleurs Thierry Lhermitte sera dedans également. Voilà. Donc ça peut être également une troupe.
Ouais, Thierry Lhermitte maintenant est Cashton, hein. c'est pas de l'artistique. <quoi.
rire> Touche pas Thierry.
Mais est-ce qu'il y a eu un succès international des bronzés?
Non. J'ai eu Yves Rousseyroir au téléphone hier soir. Moi aussi, je suis comme vous, je prends les portables des gens, je les appelle. Et il n'y a pas eu de succès. Les films sont sortis dans les pays francophones, notamment la Suisse, Luxembourg, Belgique, où je crois qu'ils ont remporté un succès relatif, même si j'ai pas des chiffres. Mais Rousseyroir dit que non, principalement, Les Bronzés, c'est un succès français. Et bon, c'est pas étonnant parce que c'est vraiment deux films qui sont quelque part une histoire française aussi. Les Bronzés, c'est une histoire qui parle beaucoup de la France de cette époque-là, la France Club Med, où les gens, les salariés en particulier rêvaient d'aller au Club Med. C'était ça paraît complètement.
C'est ce que Balasco dit dans le documentaire. Oui. C'est la première fois qu'elle partait en vacances entre guillemets.
Absolument.
Dans un club en Afrique.
C'était la première fois. Elle avait jamais vu de montagne de sa vie. Enfin, elle avait jamais été à la montagne. Elle avait jamais fait de ski de sa vie.
Et même pour les premiers bronzés, c'est la première fois qu'elle allait voir la mer.
Oui. En Afrique, on lui a fait découvrir des tas de choses.
Elle vous doit énormément.
Merci Philippe.
Ceux que ça intéresse, alors je n'ai pas de part dans l'éditeur et c'est pas moi qui ai écrit ce livre, mais il est sorti il y a quelques... Mais Patrice Lecomte, vous témoignez dans ce livre, je crois, qui s'appelle Les Bronzés, la véritable histoire d'Alexandre Ravelot, et c'est aux éditions Recollection. Voilà, il est sorti il y a quelques jours. Excellent bouquin, si ça vous intéresse.
Ouais, pour en venir au succès non international des Bronzés, ça concerne pas les Bronzés, ça concerne la comédie.
Oui, c'est vrai.
L'humour, autant il y a des tas de choses, l'émotion, le drame, la tragédie, ça s'exporte.
L'humour a une nationalité. Il y a un humour. Mais puisque l'humour anglais nous fait marrer.
L'humour anglais en France, c'est un peu élitiste. Enfin, c'est pas un humour grand public.
C'est pas un sans rire.
Mais ce qui fait marrer les Espagnols, fait pas marrer les Italiens. Ce qui fait marrer les Italiens, fait pas marrer les Anglais, etc., etc.
D'accord.
Donc les comédies, puisqu'on parle de comédies, de films, s'exportent très mal, très peu.
Ça aurait pu être adapté.
Pourtant, les ch'tis se sont exportés. Il y a eu des versions qui en ont.
Oui, il y a eu des. Alors, est-ce que les films se sont faits? Je crois que les Américains ont racheté les droits. Alors,
oui, ils ont retourné le film. Ils ont fait un remake.
Avec Will Smith.
Oui, c'est ça, oui, exactement. Mais là, pour le coup, j'ai pas préparé. Donc...
Bon, ok, d'accord. Merci Philippe Gage. Merci beaucoup. Merci. Tanguy Pastureau, bonjour. Tanguy, bonjour. La France est fière de ses pandas.
Oui, les pandas, ce sont ces gros ours qui ont la vie de Patrick Balkany, c'est-à-dire qu'ils évoluent en captivité. Sauf qu'eux se reproduisent. Ils ont donné naissance il y a 2 ans au filleul de Brigitte, Yuan Meng Macron. Mais le souci, c'est que la Chine veut nous le reprendre. Et aussi ses parents. Sommes-nous prêts à vivre dans une France sans pandas? Non.
Avec les lacs à
tous.
Daniel Morin.
Bonjour Alexis.
Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Sivier.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Oui.
Alexis Le Rossi.
Bonjour.
Et notre invité Patrice Lecomte.
Bonjour.
Ou rebonjour.
Où nous évoquons, nous fêtons cet anniversaire, le 40e anniversaire des bronzés que vous avez vu venir depuis facilement un an, puisqu'on avait fêté le 40e anniversaire des bronzés 1. Les bronzés font du ski, c'est un coffret qui est en vente libre, où il y a 2 DVD et un Blu-ray. Les 2 DVD, il y a d'un côté le film, sur un autre DVD, ce documentaire d'1h30, avec des témoignages, alors pas uniquement la bande du Splendid aussi, ça qui est intéressant.
Il y a plein de gens qui témoignent, il y a par exemple un type que j'adore, qui est Arnaud de Samer, qui me fait mourir de rire et qui raconte pourquoi il aime les bronzés. Donc il y a des gens qui sont fans des bronzés qui témoignent, qui racontent pourquoi.
Et j'ai des sacs de plage aussi, un cadeau.
Il y a un sac de plage,
il y a des
qu'on appelle des goodies, des photos à envoyer à sa famille,
des badges,
et
ainsi de suite. Voilà, une bonne idée de cadeau avec ces 3 DVD, le film, le documentaire et le Blu-ray, rajouté en plus pour fêter les bronzés font du ski. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, la France, notre beau pays, est panda dépendant.
Oui, les pandas, ce sont ces grands ours ringards qui sont toujours en noir et blanc, alors que même Alain Duhamel est passé à la couleur. Ce sont des plantigrades chinois, mais au contraire des Chinois, les gens qui sont de gros bosseurs, la grande muraille de Chine, ils l'ont monté en 27 minutes à 5. Et ben, les pandas sont des branleurs. H24, image du bambou assis, les pattes écartées. On a l'impression de voir Clara Morgan il y a 20 ans, un jour où elle s'était pas épilée alors qu'elle était en train de tester le régime vegan. Non. Je sais pas pourquoi le public aime tant les pandas. Bébé, c'est mignon, mais une fois adulte, c'est comme l'être humain, la plupart du temps on est sur des physiques ingrats. Le public en studio, je suis sûr que petit, il devait être charmant. Regardez Yuan Meng, le panda du zoo de Beauval. Il était tout mimi, une boule de poils, on aurait dit Florent Pagny. Et là, en 2 ans, c'est devenu un panda énorme. Brigitte Macron, sa marraine, n'ose même plus lui faire la bise. Pour peu que le panda soit myope, elle qui est longiligne, elle a peur qu'il la prenne pour une tige de bambou et lui bouffe la tête. Or, une première dame sans tête, on a déjà évacué ça en 1793, on a vu que ça faisait pas comme avec les poules, elle a pas couru bien longtemps sans. Oui, Yuan Meng a déjà 2 ans. Il lui reste 18 ans à tirer, puisque le panda a une espérance de vie de 20 ans, soit 20 de moins que la personne qui tape dans le dos de Booba en lui disant « tu vas bien la fouine ». Et les gens se ruent à Beauval pour le voir. Le zoo a gagné 1 million de visiteurs par an depuis qu'il est là. Certains mecs poilus du dos se font tracer au rasoir par leur femme des ronds dans la toison juste pour lui ressembler. Oui, la France, ce pays qui avant Yuan Meng a aimé d'autres êtres ayant la même hygiène que lui, comme Noël Mamère ou Virginie Despentes. C'est prise de passion pour cet ours, au point que Benoît Hamon pour 2022 s'est mis au bambou et actuellement il apprend à rouler sur le dos en faisant groumph. Mais l'amour finit toujours mal, c'est pour ça que je conseille plutôt de consacrer son temps au gobage d'huîtres, parce que chaque année à Noirmoutier il y a un concours et on peut remporter un t-shirt. Ainsi Yuan Meng, notre bébé puant, va être arraché de sa terre natale, la France, en 2021. C'est le début de la remigration sur F2 Chous, ils sont comme des fous. Ensuite le groupe Magic System sera accompagné en Côte d'Ivoire par des musicologues outrés. Puis ce sera le tour des humoristes belges de France Inter de s'en aller, ce qui permettra d'embaucher pour les remplacer 1195 Français. Le problème avec Yuan Meng, c'est que même s'il est né chez nous, il appartient à la Chine. C'est fou, hein. Ségolène Royal est née à Dakar. Et bien si le Sénégal nous la réclamait, bon, ok, on la lui donnerait. On n'en a pas l'utilité, sur le bon coin, elle n'entre dans aucune catégorie. Mais bon. En fait, la Chine attend que le panda soit sevré, puisque là, il tète encore. Ce qui fait bizarre, parce qu'il a la taille de sa mère. Donc on a l'impression de voir un film des frères Dardenne concernant l'inceste avec des acteurs un peu négligés. Mais une fois sevré, hop,
Les Chinois le foutront dans l'avion, siège B1, B2, B3 et B4, puisque le panda a un fessier massif. Hein, chez les Kardashians, quand ils en voient un à la télé, tout le monde crie « C'est tonton !» Et fini, on va perdre notre panda.
Mais est-ce que les autorités françaises font quelque chose pour le retenir ?
Mais non, c'est foutu, les Chinois sont méchants. Regardez dans Gremlins, c'est un Chinois qui à la fin récupère le Mogwai. Tout ça parce que l'autre a mangé après minuit. Mais enfin, à la fin d'une nuit de débat au Sénat, Gérard Larcher aussi fait ça et c'est pas pour ça qu'on nous le prend. Non mais on en est à essayer de garder en France les parents de Yuan Meng prêtés en 2012 pour 10 ans. En 2022, ils partent aussi. En même temps que Macron, si ça se trouve. Il va juste rester dans le pays. Marine Le Pen, 4 girafes et un babouin. Et encore, s'ils ont leurs papiers, sinon Marine les fout dehors. Mais le directeur du zoo de Beauval l'a accompagné Macron en Chine cette semaine pour les supplier de pas nous prendre toute la famille. Et du coup, les Chinois nous tiennent par le scrotum, comme disent les latinistes polis qui, comme moi, se refusent à prononcer le mot couille. Si Macron, notre petit panda sans poil, leur dit Monsieur Jinping, et les droits de l'homme, on en parle ? L'autre répond, non bébé, souviens-toi que j'ai ton panda. Hein, ce panda à la noix nous empêche d'être la nation porteuse de liberté et d'émancipation que nous avons toujours été. Enfin, le panda et le fait de signer des contrats de plusieurs milliards d'euros qui fait qu'on est les petites catins de toutes les dictatures de la planète. Bon, la solution est donc simple. Liquidons le panda tout de suite. Un coup de taser, Benalla derrière lui met une patate, Stéphane Plaza récupère la peau pour la mettre devant la cheminée d'un pavillon qu'il essaye de vendre. La viande, on la met dans des lasagnes. Hein, les gens pendant des années ont mangé foufou et vanille les poneys sans le savoir. Ils peuvent bien boulotter du panda. Et comme ça, les Chinois, on pourra leur dire on ne dépend plus de vous. Ou mieux, on pourra leur dire, rendez-nous Jean-Pierre Raffarin, c'était un prêt. Et s'il a profité d'un de ses séjours à Pékin pour se reproduire, nous voulons aussi ses bébés. Hein. Ces trois pandas sont notre talon d'Achille. Il faut s'en débarrasser. Les antiquités égyptiennes aussi. Quand Al-Sisi, le despote local, verra qu'on lui a refilé toutes les momies qu'on a, y compris Patrick Juvet, eh ben on pourra être détendu par rapport à lui. On restera chez nous, sans fric, avec juste les quatre sangliers qui ne se sont pas fait défoncer par des SUV, à dormir par terre au milieu des termites, comme dans une émission de Frédéric Lopez. La vie, la vraie.
Et Tanguy, on se retrouve le 7 décembre à Alonne. C'est pas loin du Mans.
À Neuil.
Alonne.
J'aimerais faire une tournée internationale.
C'est pour l'année prochaine, Alonne. Ça.
Oui, c'est dans le 72.
Ouais.
Allez, des questions concernant l'actualité culturelle. Patrice Seconde, vous essayez de répondre à cette question. Deux séries vont être adaptées d'un même roman culte. On en parle en ce moment. Quel est ce roman, à votre avis ?
Je sais pas du tout, je suis pas sérieux du tout.
Et pardon ?
Les Misérables ?
Non.
Un roman culte ?
Ouais.
Contemporain ?
Français ?
Non, anglais. En anglais.
Hamlet.
Deux séries.
Dickens.
Deux séries. Alors Fred, deux séries.
Ben oui, justement, je suis en train de...
Il y en a une qui a déjà commencé sur Canal.
Ah, la guerre des mondes.
Oui, oh joli. Ah,
il m'a fait peur, moi.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça. T'as la voix hyper aiguë.
Je vous raconte pas le vu maître en cabine.
H.G. Wells. Oui.
Il y a Kevin qui saigne de l'œil, là. Il s'est pris le vu maître de
La guerre des mondes, ce roman culte, donc, débarque sur nos écrans. Il y a déjà, donc, en ce moment, sur Canal+, la série, avec Léa Drucker dedans, Gabriel Byrne également.
À disposition.
D'accord, très bien. La seconde, c'est une mini-série en trois épisodes proposée par la BBC. Celle de la BBC se déroule en 1900 dans l'Angleterre édouardienne, tandis que la proposition de Canal, elle, se passe dans l'Europe contemporaine. Vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas série. Ça vous tenterait pas si on vous proposait de réaliser une série ?
Si, si, il y a des c'est tendance, c'est pour ça que. Mais il y a des trucs qui se trament en ce moment. Non, mais quand je dis je suis pas série, c'est en tant que spectateur. C'est-à-dire que je trouve ça, enfin, ce mot tellement utilisé, je trouve ça chronophage. Moi, je rencontre des jeunes gens qui me disent on a acheté la saison 12 de telle série. On a commencé vendredi soir. On s'est fait livrer des pizzas. On n'a pas dormi. Là, et on était explosé. Bah, c'était super. Et ben, ça me fait pas rêver, moi.
Non, mais c'est une soirée.
Binge-watching.
C'est pas une soirée, c'est un week-end.
C'est un trip.
Ouais, ben bah oui, ben. Bah. Mais sincèrement, je suis un monde honorable parce que j'ai sûrement tort, parce qu'il y a des séries.
Non,
à coup sûr formidables, mais je ne les connais pas.
Il y en a plein qui sont formidables, mais c'est
là,
comme tout.
C'est le mode de consommation, donc voilà. On met en question, c'est la quantité
c'est l'excès,
d'un coup.
C'est l'excès. Ouais. Mais
moi, j'ai lu tout Balzac en une nuit, hein.
Sans pizza.
Voilà.
D'où ta forme.
C'est ce qu'avait dit Woody Allen sur. Il avait fait une méthode de lecture rapide et dit j'ai lu Guerre et Paix en un quart d'heure. Ça se passe en Russie.
quel nouveau prix vient de remporter le film dont parlait tout à l'heure Alexis Le Rossignol, Joker ? Il vient de remporter un
meilleur costume. Film interdit aux moins de 16 ans, le plus
17
vu.
Ans.
Exactement. C'est 17, exactement. Le film interdit aux moins de 17 ans, le 17. Plus rentable. Joker devient le film.
Deadpool.
On fait des catégories pour tout après.
Devant
Deadpool. Ouais, c'est vrai. Si je vous dis Bird Box, Murder Mystery ou Triple Frontière. Je parle de quoi ?
De séries.
C'est des nouvelles séries Apple, non. Apple Plus, non ?
Des
non.
jeux de société ?
Bird Box.
Non. C'est Bird Box, Murder Mystery, Triple Frontière.
Des jeux, des adaptations cinéma.
Alors, sont des films ?
Des films.
Des films d'horreur.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?
Pour enfants, non.
Non.
Des films qui sont adaptés de jeux vidéo ?
Non.
Il y a des Saint-Bernard ?
Bird Box, Murder Mystery, Triple Frontière.
Des films chinois ?
Non.
Bernard Ménès joue dedans ?
Ça ressemble à des scénarios d'Escape Game. Mais...
Non.
Non.
Un échec cuisant de tout le monde.
Ouais,
c'est les trois films les plus vus sur Netflix. Ah, est-ce que l'entrée dans le monde du cinéma, des Netflix, des Amazon, vous le voyez de quel œil ? Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous êtes contacté ?
Oui, forcément, mais plutôt serein, parce que c'est pas des ennemis. On aura tout le temps... On aura tout le temps besoin de gens pour écrire des histoires, pour les tourner, pour les jouer. Si les médias changent et si c'est Netflix au lieu d'être Gaumont International, enfin, non, c'est moi je trouve ça très bien.
Les auteurs, il y a du boulot du coup, hein, c'est chouette.
Ouais. Ouais, ouais.
Parce qu'il y a un nombre de productions aujourd'hui, c'est énorme.
Il y a du boulot pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde.
Il y a,
tous les métiers,
une vraie quantité, mais c'est vrai que c'est dans le monde du cinéma, ça n'a pas toujours été bien accueilli en tout cas.
Non, en effet, moi le seul. Le seul petit pincement au cœur, c'est que Netflix, les films ou les séries produites par Netflix ne sont pas visibles au cinéma. Et moi, en fonction de la génération, je suis très attaché aux films en salle, au cinéma.
Non, mais ce qui est surprenant, et Jean-Baptiste Bussière, le rédacteur de cette émission, a raison, c'est les trois films les plus vus sur Netflix, et nous tous autour de la table.
On ne les connaît pas.
On ne les a pas vus.
Voilà. Bird Box, 80 millions de vues, vous imaginez, pour un film.
Peut-être qu'il faut renouveler l'équipe, hein, tout simplement.
En deuxième position, Murder Mystery, 73 millions de spectateurs.
C'est Jennifer Aniston et Adam Sandler.
Et Danny Boone.
Oui, c'est ça.
C'était drôle. Ça.
Toujours dans les bons.
Oui.
Donc, c'est le deuxième plus gros succès après les Ch'tis pour Danny Boone, Murder Mystery.
Bah, c'est bien ça.
Et le dernier, c'est Triple Frontière. Et là, je n'ai rien à vous dire dessus. Je ne sais même pas de quoi ça parle.
C'est sur les cartels de la drogue.
Connaissez-vous, je vais y arriver, je vais la formuler correctement. Comment les producteurs du prochain James Bond tente-t-il d'empêcher de se faire divulgacher, spoiler le film ?
En ne donnant pas le scénario à qui que ce soit, même dans l'équipe.
Non, c'est une idée géniale. Pour ne pas qu'on gâche.
En tuant toute l'équipe.
En diffusant des fausses versions du scénario.
Alors pas loin.
Ils ont fait des fausses fins.
Exactement.
Ah, oui. Ah ouais.
Ils ont tourné trois fins différentes.
Mais ça se fait pour beaucoup de films aux États-Unis.
C'est vrai ?
Ouais, bien sûr. Et ils font voir des panels. Et en fonction de la préférence,
ah, mais c'est pour choisir la meilleure chose.
Ça, c'est pas pareil.
Mais là c'est pour trouver les
pistes. Pour tromper les Daniel, on est sur autre chose, là.
Mais je veux dire, c'est commun, ça, ça se fait super longtemps.
Non, pas du tout. Parce que là, ils savent très bien quelle est la fin. Ils savent très bien quelle est la fin du film. Ils en tournent trois. Il n'y a que le réalisateur qui sait exactement quelle est la fin qui sera utilisée. Le problème, c'est que ça a déjà fuité. C'est que ces fins ont déjà fuité.
Mais
c'est
quoi la
fin ? Non, bah non. Dis-le.
Non.
Il tombe amoureux.
007 pourrait quitter. Alors la fin, c'est il pourrait quitter les services secrets.
Ah. Mais l'équipe des services secrets, puisqu'on sait que ça va être une femme.
C'est une femme.
Il rend ses gadgets, il s'installe en Jamaïque, il ouvre un petit kebab. Pardon ?
Il ouvre un petit kebab.
C'est un bar de plage et puis hop.
Est-ce que vous avez autour des bronzés et des rumeurs autour des bronzés, est-ce que vous avez entendu des choses, des inepties totales ou des faux buzz autour des bronzés ?
Non, le seul vrai faux buzz, c'est il y aura un bronzé 4 dans pas longtemps. Ça, c'est un vrai faux buzz.
C'est un vrai faux buzz. Très bien. J'avais
ça
un
va,
truc.
Maggie ?
Non, c'est une micro-coupure.
Ce début d'AVC, quand même.
En direct.
En direct.
En direct. Mais j'avais un
on
doute.
On dirait Molière.
J'avais un doute. Je me souviens que nous étions. Je le prends bien.
Évidemment. Lui, moi.
J'avais un doute, mais nous sommes vendredi, donc c'est Frédéric. C'est ça. Je voulais être méchant au début, après je me dis non, c'est Frédéric Sigris.
Ah oui, tu penses que c'était Daniel.
Ah, quand c'est Daniel, je le pourris. Quand c'est toi, je dis bonjour.
Non, en plus, vraiment, là, je suis un petit peu perdu parce que par rapport à l'actualité de cette semaine, j'ai envie de poser une question, c'est comment ? Comment on a pu passer, il y a 8 mois, d'Emmanuel Macron qui visite des égouts pour savoir comment s'échapper de l'Elysée en cas d'attaque de gilets jaunes ? Hier, Brigitte, elle avait déjà pris un Uber pour Varennes. Comment on est passé de ça à un président qui a eu l'idée d'aller taper dans la poche des chômeurs pour les inciter à aller bosser.
Là, je suis complètement paumé. Quand tu regardes une série Netflix, tu piques du nez et quand tu travailles, tu comprends plus rien. Tu dis, j'ai raté une saison. Soit ce mec est fou, soit c'est un androïde à qui on reformate le disque dur tous les 6 mois. C'est les 2 seules possibilités. Parce que le gars cherche des problèmes quand même. Là, tout le monde n'est pas content. Il y a des mouches vertes qui cherchent moins la merde qu'Emmanuel Macron. Hein. Même Sarkozy, qui était déjà une sorte d'expérimentation de laboratoire d'arrogance et de brutalité. Hein. Même lui, en voyant la réforme de l'assurance chômage, il a dit « Ouais, là, c'est chaud. » Déjà au lendemain de l'attaque sur une mosquée, donner une interview dans Valeurs Actuelles, j'aurais pas osé. Mais alors là, voler les pauvres pour leur donner envie de travailler... Ah, même Carla, elle est restée sans voix. Parce que pour Emmanuel Macron, un chômeur, c'est un mec qui se lève chaque matin, qui se tâte et qui se dit « Je sens pas. Oh, pas aujourd'hui. Je touche combien ce mois-ci? 800 euros? Oh, je suis large. Quand je serai à 400, je traverse la rue. » D'ailleurs, je vous invite à faire pareil. Hein. Si vous croisez un mec qui fait la manche, piquez-lui ses sous, vous allez voir comment ça va l'inciter à bouger son cul. S'il vous court après, c'est qu'il peut aller bosser. Cette réforme, en plus, elle est portée par Muriel Pénicaud, que j'ai personnellement beaucoup de mal à prendre au sérieux. Parce qu'à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression de voir Pierre Richard déguisé en femme dans Les Fugitifs. Il n'y a pourtant pas lieu de les confondre.
On n'avait dit pas les affaires.
Ah oui, mais quand même, chaque fois que je la vois, je ne peux pas les confondre. Parce qu'il y en a un qui a du talent et l'autre qui est ministre. Et c'est donc quand même la ministre la plus riche du gouvernement qui est en train d'expliquer aux pauvres qu'il est facile de vivre avec moins. Elle a un patrimoine de 8 millions d'euros. Alors, ce que vous allez me dire, oui, mais c'est du populisme, ça, Frédéric. N'empêche, Gérard Larcher voudrait vous apprendre à faire des abdos, vous auriez un doute. Ah, et ben là, c'est pareil. Ce qui est sous-jacent dans cette réforme, c'est que les chômeurs profiteraient du système. Ils profitent du système. Alors que Muriel Pénicaud, pas du tout. Hein, je rappelle que le parquet de Paris a ouvert à son encontre une information judiciaire pour favoritisme et recel de favoritisme. Son ancienne DRH de sa boîte Business France l'accuse de harcèlement. Le Canard Enchaîné a révélé que 671 infractions au Code du Travail ont été constatées quand elle dirigeait sa boîte. En 2013, lorsqu'elle était DRH de Danone, elle a revendu pour 1 million de stock options alors que le groupe annonçait 900 suppressions d'emplois. Et François de Rugy a dû démissionner à cause d'un homard. Mais tu m'étonnes qu'il l'ait mauvaise. Déjà qu'il bouffe du homard alors qu'il aime pas ça. Et il est obligé de démissionner. Alors que l'autre, elle a le CV de Balkany et de tapis réunis. Tranquille, elle vient faire la leçon aux pauvres. Muriel Pénicaud, elle a plutôt le talent de quelqu'un qui sait comment te faire perdre ton boulot. Pas le retrouver. C'est quoi ce discours en France vis-à-vis des chômeurs? Ouais, mais ils sont payés à rien foutre. Il y a erreur, si t'es payé à rien foutre, t'es pas un chômeur, t'es rentier. En général, si Pôle emploi te verse une allocation, c'est que t'as travaillé et que t'as cotisé pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une assurance chômage. T'allumes certaines chaînes de télé en ce moment, t'entends parler d'IVG de confort, de chômage de confort. Je pense que bientôt ce gouvernement va nous expliquer qu'il y a une exclusion de confort pour pouvoir manger à l'œil au resto du cœur. Pour Muriel, c'est le plein d'emplois dans sa tête. Il y a des tonnes de postes à pourvoir et des tonnes de chômeurs, donc il faut prendre la tonne de chômeurs et la mettre dans la tonne de postes à pourvoir. Un peu comme un chimpanzé qui réussit à mettre un cylindre dans un rond. Tu vois, d'ailleurs, ils ont eu l'idée comme ça, ils l'ont vu. Oh, il met les cylindres dans le rond, c'est génial, Muriel t'es viré, on a quelqu'un qui fait la réforme de l'emploi. Et puis on sait que c'est des boulots de merde, mal payés, loin de chez soi, donc on avait 2 solutions. Soit augmenter les salaires, non. Soit... baisser les allocations chômage. Ouais, comme ça, le chômeur, il a plus le choix. Parce qu'elle est comme ça, Muriel. Si elle a une copine célibataire qui veut pas se mettre en couple sous prétexte qu'il y a personne qui lui plaît, eh ben, Muriel, elle va dire, ah, mais non, 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 ma cocotte, hein. Tu vas te mettre en couple avec le gros macho qui pue, qui battait son ex, car il est à pourvoir. Et maintenant, tu fermes ta gueule. Sincèrement, moi, je trouve que quand t'as déjà créé autant de chômeurs, tu pourrais au moins leur foutre un peu la paix. On connaissait déjà le harcèlement au travail. Muriel Pénicaud vient d'inventer le harcèlement au chômage.
Frédéric Sigris.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Et on te retrouve demain chez toi, Frédéric. Tu seras
oui,
à Nancy.
Chez moi, dans mon appartement. Salle Poirel, à Nancy.
Pour non, il sera au commissariat après tout ce qu'il vient de dire. Il est en contrôle judiciaire.
Déjà, contrôle fiscal, c'est sûr.
Ça va être un contrôle rapide. Très rapide, le contrôle fiscal.
Les bronzés font du ski, les 2 DVD plus le Blu-ray avec les goodies, comme vous avez dit, les petits cadeaux supplémentaires offerts à l'intérieur. De redécouvrir les bronzés, ça fait toujours plaisir. De les mieux les connaître grâce au documentaire qui est à l'intérieur, que vous avez initié. Ou pas d'ailleurs ce
documentaire. Ça m'a été proposé, j'ai dit c'est super, on va participer et c'est ce qui est très bien, c'est que effectivement comme vous le disiez tout à l'heure, non seulement toute la troupe du Splendid participe pour raconter les souvenirs, les anecdotes, les bêtises évidemment, moi le producteur et des tas de gens qui aiment ces films et qui en parlent bien.
Avez-vous appris des choses vous dans ce documentaire? Est-ce qu'il y a des secrets de tournage ou de situation ou des visions, des perceptions de la part de la troupe que vous n'aviez pas en mémoire?
J'ai appris un truc, c'est que quand Josiane Balasco dit non, la neige est trop molle, c'est trop dur pour moi, et puis qu'elle descend quand même et qu'elle se pète la gueule comme un gros sac à patates. Comme un gros sac à patates, elle dit dans le documentaire, dans le truc, oui, j'ai fait ma cascade moi-même. Eh ben, c'est pas vrai. Mais pas du tout, elle est gonflée. C'est comme si Michel Blanc disait, c'est moi qui ai sauté du télésiège. Bien sûr que non. Donc, il y a deux cascades formidables dans ce film, mais Josiane n'est pas... Non, mais c'est normal, parce qu'elle aurait pu se casser quelque chose, ouais, faire une entorse, je sais pas quoi.
Évidemment. Mais c'est vrai, j'étais impressionné de le voir et d'entendre, mais c'est bien de rectifier. Rectifier ou pas, d'ailleurs, cette autre rumeur qui ne concerne plus les bronzés font du ski. Maigret et la jeune morte, vrai, faux, buzz, pas buzz. Non, c'est vrai que Gérard Depardieu...
C'est vrai aussi.
Vous le dirigez devant cette...
Et que le réalisateur, c'est moi, c'est vrai.
Très bien. Et c'est pour quand tout ça ?
On commence à préparer la semaine prochaine et on commence à tourner début février.
Génial. Les bronzés
font... Génial, je ne sais pas encore.
D'avance, génial.
Mais on espère.
Les bronzés font du ski. Leïla, qu'est-ce que tu as... Moi, j'ai envie pas d'en dire, de retenir, parce que tu l'as revu
Thierry
aussi.
Je l'ai revu, en fait, ça fait du...
Ouais, Thierry Lhermitte.
Ça fait tellement... Bah, Thierry Lhermitte, évident, avec ses yeux bleus incroyables, je sais pas si c'est retouché, mais c'est fou.
T'as regardé que les yeux, toi.
Ah ouais, okay, non, d'accord. Bah, pas que, mais... Et,
bah,
et surtout...
Regarder autre chose,
non, bon. Surtout, ça fait un bien fou de revoir ce film, quoi. Il y a quelque chose de confortable. C'est un peu comme un Modiano. On sait ce qu'il va écrire, mais on aime bien le retrouver chaque année. Bah, c'est pareil avec les bronzés.
Daniel Morin.
Ben, les bronzés font du ski, comme les bronzés, ça, je les mets ensemble, font partie des deux, trois films qui m'ont donné envie, justement, de dire des conneries, d'essayer de les dire bien et d'en faire mon métier.
Albert Algou?
Moi, je retiens le burlesque pur, la qualité de ce film, enfin de ces films, c'est aussi cette tradition du burlesque qui remonte à Chaplin, Buster Keaton, et c'est un grand film aussi pour ça, quoi.
Fred Segris,
le burlesque.
Moi, je retiens que Patrice Lecomte est un génie avec qui il fait bon travailler parce qu'il demande rien, il veut pas de droit de regard, et il oublie tout, donc c'est parfait pour un producteur.
Et ça, c'était avant. Tanguy Passero.
Machine de guerre incroyable, quoi. Un gag toutes les 20 secondes.
C'est vrai.
Je trouve qu'on a du mal à retrouver ça aujourd'hui, quoi.
Alexis Le Rossignol.
Bah, je dirais que c'est le film familial aussi par excellence. Quoi. On regarde ça en famille. Et...
Toutes générations confondues.
Et voilà.
Totalement d'accord. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là là, bien sûr. Désolé, pour Leïla. Hein. Oh, ne pleure pas, ma tourterelle orientale. Désolé pour les fans de Patrice Lecomte qui ont découvert le manque d'audace et de courage de leur héros qui n'a pas osé filmer Les Couilles à Thierry. C'est vrai que ça manque un peu au cinéma. Ça manque un peu au cinéma français et surtout beaucoup, beaucoup. Allez là. Désolé enfin pour Nagui qui, depuis l'histoire The Field de ce coquinou de Patrice Lecomte, rêverait de rencontrer le fameux Saint-Bernard, hein, de ce supposé film. Alors désolé Nagui, mais il n'existe pas ce film. En revanche, on peut peut-être le tourner, hein, Alexis Le Rossignol est partant, il serait parfait à quatre pattes. Et bien sûr, on tournera tous au poil et rien au pinceau. Allez là.
Patrice Lecomte, qu'est-ce que... Merci Daniel.
Merci.
Patrice, qu'est-ce que... Vous avez, j'imagine, entendu beaucoup de choses sur les bronzés. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir ou qu'est-ce que vous aimeriez encore aujourd'hui entendre que l'on vous dise des bronzés ?
Si, c'est un truc marrant, j'ai rencontré un jour, après les bronzés 3, Amis pour la vie, j'ai rencontré un journaliste avec qui je faisais un entretien qui ne me parle pas du film. Il me parle de tout, mais il ne me dit pas s'il a aimé le film ou pas. Et à la fin, il me dit je ne vous dis pas ce que je pense du film parce que quand j'ai vu les bronzés 1 et les bronzés 2, j'aimais pas. Et 10 ans après, je les ai aimés. Donc, dans 10 ans, je vous dirai ce que je pense dessus.
On a compris, d'accord.
J'ai trouvé ça extravagant.
Le coffret. Les bronzés font du ski, ça fait du bien. Et merci mille fois et bravo pour votre talent de réalisateur aussi et votre sens de l'humour. Patrice Lecomte, merci, bonne journée. C'est Florian Zeller que nous recevrons lundi et dans quelques instants les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.